88, encore une fois, on a dit que c'était vraiment un des joyaux. C'était même l'éclat de la pierre précieuse que représente Romain dans la révélation divine. Nous avons vu dans la première partie de Romain 8 que Paul s'était concentré sur la relation intime du croyant avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, d'ailleurs, il y a besoin de traduction à part la traduction simultanée. D'accord. Merci, Elie. Nous avons appris que nous pouvons être sûrs de notre réception par Dieu. Il n'y a plus de condamnation. En raison de la mort et de la résurrection de Christ, que nous avons célébré dimanche dernier, nous avons été libérés de la domination du péché et de la mort dans nos vies. Par la puissance de son esprit, il nous transforme, il nous sanctifie, il nous rend saints. Il nous guide par son esprit quotidiennement. Tous ceux qui sont fils de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons vu que non seulement nous sommes guidés, mais nous sommes adoptés dans sa famille pour l'éternité. Et puis, en raison de cette adoption, nous devenons co-héritiers de la gloire magnifique du Seigneur. Verset 17. Et quand on entend ça, on se dit, c'est formidable. Être chrétien, c'est ne plus jamais avoir de difficultés. C'est une vie de bonheur intense qui commence et qui n'en finit pas. Mais ce verset 17 nous rapporte une vérité importante, c'est que si nous allons hériter tout de Jésus, notre Seigneur, nous allons bientôt hériter de sa gloire, de la vie éternelle, mais nous allons aussi hériter de sa souffrance, ici-bas. Ça, c'est un message que nous préférions ne pas avoir à annoncer. J'aimerais vous dire, devenez chrétien et votre vie va devenir si facile, si belle, si riche, si pleine. Vous allez trouver le bonheur et plus jamais vous n'aurez de larmes, de douleurs, de tristesse, de dépression. Malheureusement, ça n'est pas la vérité. Certains groupes, soi-disant chrétiens, annoncent ce faux évangile. S'ils l'annoncent, c'est parce que c'est un message populaire. Si on veut attirer du monde, autant dire que vous allez avoir que des bénédictions et laisser en tout petit caractère le fait qu'il va y avoir aussi des souffrances. Nous avons été victimes d'une publicité mensongère dans son esprit. Pas plus tard que vendredi soir, nous sommes allés à Bricorama parce qu'il était dit qu'à Bricorama, vendredi soir, pour la journée anniversaire, il y avait 15% de réduction sur tout le magasin. C'était en nocturne de 19h à 21h. Et comme on avait de la peinture, des planches, des choses à acheter, on a attendu toute la journée, jusqu'à 7h. Et là-bas, l'ordinateur nous a dit qu'en fait, on avait droit à cette réduction seulement sur une petite boîte de clous, parce que la peinture, les planches étaient déjà en promotion. Et effectivement, quand on regardait le catalogue, il fallait regarder de très près, il y avait une petite astérisque qui marquait que c'était, il fallait trouver où était expliqué l'astérix, c'était sur le côté en tout petit caractère, hors promotion. Et bien sûr, légalement, ils étaient couverts, mais l'esprit était un esprit de mensonge. Et ceux qui vous annoncent que si vous devenez chrétien, vous serez riche et vous serez bien portant, jusqu'à ce que le Seigneur vous enlève, c'est le même esprit de mensonge. La souffrance existe. Et nous avons vu la dernière fois, si vous n'étiez pas là, vous pouvez emprunter une cassette, qu'elle avait des bénédictions, la souffrance. Parce qu'elle nous montrait déjà qu'elle était la preuve de notre relation avec Dieu. Jésus avait annoncé, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on persécutera, qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Jean 15, 20, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » De Timothée, Jean 16, pardon, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, des épreuves dans le monde. Mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Paul dans Timothée nous dit, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire selon les voies de Dieu en Christ Jésus, seront persécutés. » Quelque part, lorsqu'il y a de la persécution, il y a de la souffrance pour Jésus-Christ, parce que nous suivons Jésus-Christ, alors nous pouvons nous réjouir quelque part, et c'est ce que nous disait Jacques, « Réjouissez-vous de vos souffrances, pas par masochisme, mais comme preuve de votre appartenance à Christ. » Et puis nous avons vu que la souffrance, elle est bonne, parce que là aussi, elle permet la révélation de Dieu. Encore une fois, quand tout va bien, on a tendance à oublier Dieu. Même si on sait qu'intellectuellement, oui, c'est lui la source de notre bonheur, de nos joies, on n'est pas prêt de se tourner vers lui à chaque instant. Par contre, quand la pression est sur nous, lorsque les épreuves sont là, à ce moment-là, on se tourne vers lui. On se tourne vers lui, et ce qui est formidable, c'est que même dans ces épreuves, cette présence, cette intimité qui résulte de ce besoin, elle nous permet non seulement de supporter les épreuves, mais elle est un moment de grande réjouissance. Je suis encouragé par l'attitude d'une dame qui a commencé à suivre les études à Mougins, une chrétienne de longue date, à qui on a dû recommencer une opération contre le cancer après quelques mois, parce que le cancer a progressé. Et cette femme a plus de joie dans son cœur que moi j'en ai. Et quelque part, je dis, est-ce que je veux cette relation intime avec Dieu? Est-ce que je veux cette certitude de son amour, cette joie contagieuse? Ou est-ce que je préfère garder ma distance et peut-être ma froideur? Paul disait que son but, c'était de le connaître. Il voulait connaître Dieu, la puissance de sa résurrection, ça tout le monde est d'accord. Qui c'est qui ne veut pas voir la puissance de sa résurrection dans la vie? Ma prière qui répond, la persévérance, les choses merveilleuses accomplies parce que la puissance de son esprit est en moi. Mais Paul cherchait aussi la communion de ses souffrances. La communion des souffrances de Dieu. Mais c'est là qu'on voit que Jésus, Dieu, est notre Jéhovah Rapha, celui qui pourvoit nos besoins. C'est dans la souffrance que nous voyons qu'il est... Jéhovah Rapha, celui qui guérit quand nous sommes malades. Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit quand nous sommes dans le besoin. Et ainsi de suite. Paul disait que c'était une grâce, non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Jacques disait, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience et que la patience accomplit une œuvre parfaite pour être, que nous soyons parfaits et accomplis et qu'il ne nous manque rien. Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. 1 Pierre 4,13. Et Paul, justement, va aborder ce sujet de l'héritage de la souffrance pour nous dire que c'est pour tous les enfants de Dieu, sans exception. Ce sera à des degrés différents. Et souvent, c'est en fonction de notre démarche avec le Seigneur. Plus nous allons aller loin, si nous voulons aller loin avec le Seigneur, nous devons être prêts à assumer cette souffrance. Paul a souvent pour habitude, on l'a vu dans Romains, il exprime, il touche à une idée, et puis dans le passage qui va suivre, il va revenir sur cette idée en l'approfondissant. Et c'est ce qu'il va faire dans le passage qu'on va lire aujourd'hui, dans Romains 8, 18 à 27. Le verset 17 disait « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de Dieu, c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. À Venise, il y a un endroit célèbre. Venise est une très belle ville, pleine de gloire, d'or, de très beaux monuments, une architecture déclarée patrimoine de l'humanité. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le pont des soupirs. Et notre passage aujourd'hui, c'est un peu ce pont des soupirs. Le mot soupir revient plusieurs fois. Trois fois, nous allons voir qui soupire et pourquoi ça soupire. Je ne connais pas, j'aurais dû rechercher l'origine du pont des soupirs, du nom des soupirs. Peut-être c'est les amoureux rejetés ou au contraire... Ce sont les prisonniers. Merci. Voilà, alors on est en plein dans le sujet. C'était des vrais soupirs de douleur et de tristesse. Merci Zoé. Zoé Chi. Italiano. J'attendais qu'un Italien... J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est le résumé de tout le passage. Paul peut parler. Il y a des gens qui peuvent dire beaucoup de choses, mais lui a le droit de parler parce que la souffrance is him. La souffrance, il connaît, c'est lui la souffrance. on peut regarder, on l'a déjà étudié, mais vous vous souvenez que dans 2 Corinthiens 11, il racontait un peu, justement, pour défendre son apostolat, son ministère, certains faux apôtres l'accusaient de ne pas être très impressionnant physiquement, de ne pas avoir une diction d'acteur de théâtre. Et lui montrait ses lettres de créance, et notamment il parlait dans le chapitre de 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, que nous allons lire ensemble, c'est page 210 dans la deuxième partie de la Bible à la Colombe. Parlant de ces faux apôtres, il dit « Sont-ils serviteurs de Christ ? » Je parle en termes extravagants. « Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les emprisonnements bien plus, par les coups bien davantage, souvent en danger de mort. » Donc il est en train de dire qu'il a connu toutes ces choses. Il dit que lui, il a été vraiment serviteur jusqu'au point de connaître les travaux forcés, les emprisonnements, les coups. Il a souvent été en danger de mort. 5 fois, il a reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, dans la mer, comme naufragé. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part de des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement, et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Quel panorama de souffrance. Et surtout que ces souffrances étaient vraiment des souffrances endurées pour la cause de Christ. Souvent nous soupirons pour nos souffrances, mais souvent ce sont des souffrances que nous amenons sur nous-mêmes. Ça peut être la conséquence de nos péchés, ça peut être la conséquence de notre désobéissance qui force le Père à nous reprendre, à nous corriger. Mais de faire de son mieux pour servir le Seigneur et de recevoir les persécutions, d'avoir à faire face à tous ces dangers, on a envie de soupirer, de dire « Oh là là, j'en ai marre, j'en peux plus. » Mais Paul, il dit, on revient à Romains 8, il dit « Ces souffrances du temps présent, je les ai pesées dans la grande balance. J'ai ma balance avec 2 plateaux. D'un côté, je mets toutes ces souffrances que j'ai endurées, toutes ces trahisons, toutes ces hypocrisies, toutes ces maladies physiques, ces aventures, ces naufrages, ces besoins physiques non satisfaits. Toute cette misère, toutes ces choses que j'ai endurées, le souci des églises, est-ce qu'ils vont grandir? Est-ce qu'il n'y a pas une église qui est en train de se diviser? Je prie pour eux, je jeûne, je perds du sommeil, je suis fatigué, je vieillis, mon corps se délabre comme une vieille tente qui prend l'eau. » Il dit, tout ça, je l'ai mis d'un côté. Et puis de l'autre côté, j'ai mis la gloire à venir qui va être révélée pour nous. Ça a été l'inverse, c'est la gloire qui est tombée. Et les souffrances, le plateau est tellement monté que tout ça, c'est parti, il n'y avait presque plus rien sur le plateau. J'improvise là, mais c'est l'idée. J'ai pesé et ça fait les souffrances, les misères de cette vie, de la vie du chrétien, ne font pas le poids. La gloire, qu'est-ce que c'est que la gloire? Parce qu'on parle de gloire à tort et à travers. La gloire, une meilleure des définitions que je connaisse, c'est l'excellence manifestée. Le mot « gloire » en hébreu, c'est le mot qui veut dire « poids ». C'est quelque chose de costaud, c'est quelque chose de consistant, c'est quelque chose de révélé, c'est l'excellence manifestée, c'est quelque chose de brut, c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien. Et la gloire, bien sûr, elle appartient à Dieu. Dans le temple, dans le tabernacle, au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait ce qu'on appelait en hébreu la Shekinah, la gloire de Dieu qui brûlait, qui était comme un feu, qui brûlait toutes choses et qui était belle, une flamme qui était merveilleuse. La gloire, ça doit être quelque chose à laquelle nous aspirons. Pas pour nous-mêmes. La gloire, elle appartient à Dieu. Pas à nous, mais à ton nom donne gloire, Seigneur, disait le psalmiste. Mais, ce qui est incroyable, ce qui est formidable, c'est que quelque part, parce que nous héritons toutes choses avec Christ, et que la gloire va lui revenir, nous allons participer à cette gloire. Il ne s'agit pas de dire, ça y est, je vais être enfin célèbre. Kate Clavier va briller dans les cieux. Donc Kate va être participante, comme nous tous, nous l'espérons, pour chacun, à cette gloire, cette plénitude de vérité, de beauté, cette aspiration que nous avons tous quelque part au fond du cœur, cette aspiration qui est si intimement mêlée dans nos gènes, qui est la raison pour laquelle nous soupirons, c'est la raison pour laquelle les gens font ce qu'ils font. Tous les gens cherchent à satisfaire ce besoin de plénitude, ce besoin d'harmonie avec la réalité divine. Mais bien sûr, souvent ça va être auprès d'idoles que nous allons rechercher cette plénitude, en cherchant l'argent, en cherchant la gloire pour nous-mêmes, en cherchant la connaissance pour comprendre toutes choses, pour des choses égoïstes. Cette gloire, ce poids de gloire à venir, Paul, c'est quelque chose avec laquelle il vivait. Moi, je sais que quand j'ai les épreuves qui arrivent, je stresse, j'essaye de prier, mais je dis, c'est pas juste, quand même. Au lieu de me dire, si c'est enduré pour le Seigneur, alléluia. Alors il ne s'agit pas encore d'essayer de se forcer, ce n'est pas une méthode Coué, la Bible. C'est-à-dire maintenant, la prochaine fois qu'on me rejette, qu'on m'accuse de choses injustes pour le nom de Dieu, je vais... Non, l'important c'est de se concentrer, comme le fait Paul, sur la réalité de la gloire à venir. Paul disait déjà... Dans 2 Corinthiens, il disait que l'Évangile c'était comme un trésor dans des vases de terre. Il disait qu'il était pressé de toute manière, mais non écrasé, désemparé, mais non désespéré, persécuté, mais non abandonné, c'est versets 7 et suivants, abattu, mais non perdu. Il portait dans son corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans son corps. Il utilise un « nous » qui peut être un « nous » de politesse, pour parler de lui-même, ou ça peut être aussi notre vie de chrétien, si nous suivons le Seigneur, comme Paul l'a suivi. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et nous avons le même esprit de foi selon ce qui est écrit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Le but de toutes ces épreuves, c'est encore la gloire de Dieu. Et la conclusion, versets 16 à 18, c'est pourquoi nous aussi, nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. On y est là. Toutes les épreuves dont il a parlé, il les met en perspective, c'est simplement un moment de légère affliction. Si on avait subi le quart de la moitié du dixième de ce qu'il a subi, on se ferait passer pour des grands persécutés. Paul dit, c'est une légère affliction, et ça, il en résulte un poids, l'idée de poids de gloire, un poids éternel de gloire. Et la conclusion, c'est qu'on a une autre perspective sur les choses. On regarde non plus aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées. Et les choses importantes, les choses réelles, les choses éternelles, ce sont les choses invisibles. C'est la grande question de notre perspective sur notre vie. Paul nous dit que le Seigneur lui avait déjà promis des souffrances. Vous vous souvenez dans Acte 9, lorsque Paul raconte sa conversion, sur la route de Damas, il a été frappé par comme un éclair de lumière et une voix qui lui avait dit « Pourquoi me persécutes-tu ?» Et Paul avait compris que c'était le Seigneur qui lui parlait. Et puis, peu à peu, il était parti à Damas et le Seigneur avait parlé à Ananias, un chrétien, pour aller parler à Paul. Et il lui disait, je vais lui montrer combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Paul, après Christ, c'est sans doute l'homme qui a le plus souffert sur la terre. Même les souffrances de Job, qui sont terribles, c'était des souffrances dans un autre contexte. C'était Dieu qui les permettait pour montrer au diable que Job n'allait pas le rejeter. Quelqu'un a dit, une façon de voir les choses, c'est de réaliser que pour le chrétien, ce qu'il a de mauvais ici-bas, c'est ce qu'il y aura de pire quand il regardera toute l'éternité. Pour le non-croyant, ce qu'il y a de mieux ici, ce sera ce qui restera le mieux pour toute l'éternité. Notre pire chose ici, ce sera la pire chose qui puisse nous arriver. Ça va être tout bon après. Par contre, si vous ne croyez pas en Dieu, si vous n'êtes pas un de ses enfants, alors vous avez intérêt à profiter des bons moments que vous passez parce que ça va jamais être mieux que ça. Quelqu'un a dit, les larmes des croyants, ce sont des diamants d'espérance. Le pont des soupirs. Qui soupire? Nous avons vu que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création attend avec un ardent désir, verset 19, la révélation des fils de Dieu. La création, ça désigne ce qu'on appellerait de nos jours, la nature. Le monde inanimé, les animaux, les plantes. Et cette nature, verset 22, elle soupire. Il faut prêter l'oreille pour entendre un soupir. Il y a des gens qui soupirent fortement parce qu'ils veulent être entendus. Oh ! Mais la nature, elle ne soupire pas comme ça. La nature, il est dit qu'en fait, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il y a certains cultes, certaines sectes, qui utilise cette expression, la révélation des fils de Dieu, pour dire, c'est notre groupe, c'est nous les fils de Dieu. on est spéciaux, on est super spirituel, et la nature attend qu'on se manifeste publiquement. Ça, c'est une fable qui fait plus preuve d'orgueil que de compréhension de la parole. La révélation des fils de Dieu, c'est 1 Jean 3,2 qui en parle. 1 Jean 3,2, l'épître de Jean, juste avant l'Apocalypse, page 270 dans la Bible à la Colombe. Bien-aimé, verset 2. On peut même prendre le verset 3, le verset 1, pardon. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous... Alors, nous allons être transformés. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Nous ne serons pas Dieu, mais nous n'aurons plus de péché en nous. Et ce jour-là, la nature l'attend. Ces petites fleurs-là, ces petites plantes vertes, elles attendent. Et le terme qui est utilisé en grec est très intéressant. Ça veut dire, vous avez peut-être vu ces petits rongeurs qui, on appelle ça les chiens du désert en anglais. Et un autre nom, c'est des animaux qui vivent dans des terriers, comme des petites belettes, et qui ont quelqu'un qui fait la sentinelle et qui reste en dehors du trou, sur la pointe de ses pieds, tout ouïe, tout regard tendu pour surveiller. Et ce mot grec, ça veut dire attendre la tête levée, le regard fixé vers le point de l'horizon d'où doit venir l'objet qu'on attend. Il y a cette tension. Et la création, elle attend le monde inanimé. On dit, le psalmiste dit que si on ne loue pas le Seigneur, les pierres crieront, les pierres vont chanter la gloire de Dieu. Il est dit que les arbres battront des mains. La création a soif de Dieu. Greenpeace, c'est très bien, mais ça devient une idole. C'est mère nature. Le chrétien qui a compris la Bible est le plus bel écologiste qui soit. Parce que la nature, on dit qu'elle a soif du retour de Dieu, de la révélation des fils de Dieu. La nature a été soumise à la vanité, au vide. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais jusqu'à ce jour, si vous entendez bien, la nature soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Le monde tel que Dieu l'a créé, avant le péché originel, c'était bon, c'était très bon. Quelque part, lorsqu'on voit une belle journée comme aujourd'hui, qu'on voit la nature, ou comme dimanche, lundi dernier, lorsque nous avons fait la balade autour du Cap Ferrat, on a cet écho en nous de cette beauté de la nature possible, de l'harmonie, des couleurs, des bruits, de la température, de la lumière, toutes ces choses, c'est pas par hasard. On a tellement de mal à se décider ici pour les couleurs, pour les aménagements. Quand on voit ce que Dieu a fait, c'est parfait. C'était parfait. tous les arbres étaient bons. On pouvait se nourrir, il n'y avait pas besoin de transpirer. Mais c'est le péché de l'homme qui a amené les épines sur les roses. C'est pas de moi, ça, c'est un auteur qui a trouvé ça. Et je trouve que c'est une tellement belle façon de décrire l'effet du péché sur la nature. Après la chute, après la désobéissance de l'homme, le sol a été maudit à cause de l'homme. La vanité, c'est la futilité. C'est l'absence de but. C'est l'inhabilité d'atteindre un but, l'incapacité, pardon, c'est l'anglicisme, d'accomplir quoi que ce soit. Il est question aussi de la servitude de la corruption. La Bible est infaillible. C'est-à-dire qu'elle est toujours juste, exacte, en matière de foi. Mais notre croyance dans l'inspiration de la Bible, elle va plus loin que l'infaillibilité de la Bible en matière de foi. Elle englobe ce qu'on appelle l'inhérence, c'est-à-dire que la Bible est toujours exacte dans tous les sujets qu'elle aborde. La Bible n'est pas un livre de science, mais quand la Bible parle de choses scientifiques, elle ne se trompe pas. Au point que il y a des groupes de médecins chrétiens aux États-Unis qui font des découvertes en utilisant les aspects médicaux, scientifiques qui figurent dans la Bible. Pourquoi est-ce qu'on circoncisait le huitième jour? Parce qu'il se trouve, on l'a trouvé depuis, que c'était le jour où les vitamines qui servent à la coagulation du sang sont au maximum de la vie d'un enfant. Il n'y a jamais un moment plus fort où il y a cette vitamine qui permet la cicatrisation que le huitième jour après la naissance. Encore une fois, on peut prendre toute la Bible comme un livre intéressant, un livre de légendes, de mythes. Et dans notre cas, avant que on découvre la loi de la seconde loi de la thermodynamique, pour ceux qui ont fait un peu de physique, ils ont entendu parler de cette loi qui a été formulée par Carnot au XIXe siècle seulement. Et cette loi, elle dit que le désordre augmente. Un système livré à lui-même, son entropie, c'est-à-dire le désordre intérieur, va augmenter. C'est une loi physique sur laquelle est basée toute l'énergie nucléaire, toute l'énergie. C'est aussi une loi qu'on peut vérifier intuitivement, de façon évidente. Il faut une énergie pour nettoyer. Stéphanie en sait quelque chose qui se charge de rendre cet endroit beau pour le dimanche matin, s'il y a des volontaires pour l'aider. Petite parenthèse. Si je laisse Tonio et Sébastien, lorsqu'ils avaient quelques années, seuls dans leur chambre avec une boîte de Lego, la chambre, je peux vous le garantir, était plus en désordre après qu'avant. Les voitures, en vieillissant, ne deviennent pas plus belles. Elles rouillent. Elles s'abîment. Elles ne marchent plus. Mon corps, ce qu'il en reste, il s'est tassé. Il a perdu certains aspects. Il a besoin d'aide, de prothèses. Tant que c'est les lunettes, c'est pas trop grave. On a déjà envie de soupirer. Pour ceux qui sont jeunes, on a l'impression que on va devenir de plus en plus fort. Et c'est vrai que jusqu'à la maturité de l'adolescence, de jeune adulte, mais je sais qu'il y en a qui ont fêté leur 30e anniversaire et ils trouvent que c'est déjà vieux. C'est vrai qu'on n'a plus l'énergie qu'on avait à 25 ans. les champions de sport, il y en a à partir de 20 ans, c'est déjà le déclin. Ça dépend des sports. Mais c'est ça la servitude de la corruption. C'est le fait que tout se dégrade. C'est une loi à laquelle dont on est esclave. Les fleurs fanent. Les gens meurent. Les gens tombent malades. Les bâtiments se dégradent. Ah, encourageant. Quelqu'un dit que dès qu'on naît, on commence à mourir. Désolé Thierry pour Juliette. Mais c'est le cycle, et ça c'est pas, encore une fois, c'est pas une fatalité. C'est pas comme ça que Dieu a créé le monde. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est parce que nous avons désobéi à Dieu que nous trouvons maintenant que c'est la loi naturelle. Mais la nature qui est polluée, la nature qui est bitumisée, qui est bétonisée, elle, bétonnée, on dirait, peut-être, elle soupire. Et vous savez qu'en musique, les chants tristes utilisent généralement la gamme mineure. Je ne suis pas un grand musicien, et encore moins un théoricien de la musique, mais vous savez qu'il y a des gammes majeures, avec Do, Ré, Mi, donc ça commence avec un ton complet, et puis un demi-ton, et puis il y a une gamme mineure, qu'on utilise dans les chants tristes, et les scientifiques qui font de la musique disent qu'en fait, dans la nature, on n'entend pas de gamme majeure. On vous dit dans la nature, le bruit du vent, le bruit de la mer, les tremblements de terre, apparemment utilisent cette gamme mineure de la douleur. C'est là qu'il faut entendre. Ces gens-là ont entendu les soupirs de la création. Alors la prochaine fois que vous entendez le vent, vous pouvez essayer d'entendre. Qui d'autre soupire ? Les croyants, 23 et 25, bien plus nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, que ce qu'on voit peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et donc il y a ce soupir un peu irréfléchi de la création, et puis il y a notre soupir chargé de certaines connaissances apportées par la révélation de la Bible qui s'ajoute à ce soupir. Vous vous souvenez de Paul qui disait « Malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Il disait que nous sommes dans cette tente, parlant de notre corps temporaire, et nous gémissons, nous soupirons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Nous aussi, nous avons cette aspiration à quelque chose de mieux. Nous sommes dissatisfaits, nous ne sommes pas satisfaits par ce que nous connaissons, ce que nous voyons. Et Dieu merci que ça existe, parce que c'est souvent ça qui nous amène à Dieu. Des fois, ça peut être une catastrophe, ça peut être une grande douleur dans votre vie qui va vous amener au Seigneur. Des fois, ça va être simplement ce sentiment de non-satisfaction. Dans mon cas, ça a été plutôt ça. J'avais, entre guillemets, tout ce qu'il fallait pour être heureux. J'avais un boulot passionnant, j'avais des revenus réguliers, j'avais une famille... tout le monde était en bonne santé, j'avais des loisirs, j'avais des amis, et quelque part pourtant il y avait ce sentiment de, mais il n'y a pas quelque chose de mieux, on va travailler là pour arriver à sa retraite, maintenant il va falloir travailler peut-être jusqu'à 42 ans pour pouvoir enfin profiter des, sans être sûr qu'on y arrivera, sans être sûr qu'une fois qu'on y sera arrivé on aura encore beaucoup de temps. se donne du mal pour enseigner, pour avoir une éducation, pour fonder une famille, pour la nourrir, les enfants partent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus motivant? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-haut? Il n'y a pas quelque chose? Est-ce que c'est tout? Et souvent, quand ces questions sont posées, on en arrive au désespoir. Le taux de la cause numéro un de mortalité chez les jeunes, jusqu'à entre 15 et 22 ans, je crois, c'est le suicide. Au-delà des scooters et des voitures. Le suicide. Nous avons une soif de réalité, une soif de Dieu. Et nous soupirons. David disait, Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon soupir ne t'est pas caché. Quand on prend le temps d'être réel avec Dieu, on doit lui dire, et vous devez lui dire, nous devons lui dire, Seigneur, je veux plus, je veux une relation plus intime avec toi. Ma vie dans le monde, même si elle apporte des joies, j'ai soif de quelque chose de plus. C'est pour ça que le plus grand sermon évangélisateur de Dieu, c'est Ésaïe 55. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Si vous ne réalisez pas votre soif, vous n'allez pas venir à Dieu. Tout le monde a soif. Le danger, c'est que souvent nous essayons de satisfaire cette soif avec de mauvaises choses. Jérémie dit que nous allons boire à des citernes d'eau polluée, d'eau stagnante. Ce soupir, il s'accompagne aussi d'une espérance. L'espérance en termes bibliques, c'est pas simplement « Ah, j'aimerais bien gagner au loto, ce serait formidable ». Non, l'espérance en termes bibliques, c'est l'assurance d'un bien futur à venir. Je sais que ça va arriver et je soupire parce que j'ai hâte que ça arrive. Mais j'en suis convaincu, c'est pas « Ah, peut-être que je vais vivre pour l'éternité avec Dieu ». Non, j'en suis sûr, si je suis avec Dieu, si le Seigneur est mon maître, s'il est vraiment Seigneur, si je lui ai confessé mes péchés, alors j'ai cette assurance. La rédemption de notre corps, elle va s'accompagner, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption. Alors, nous avons déjà été adoptés, mais l'adoption, elle va se manifester lorsque nous aurons ce nouveau corps dont nous avons parlé dans 2 Corinthiens. Et cette espérance, elle nous rend patients. Elle nous permet d'endurer. Et Paul dit très bien, verset 24, c'est une histoire de foi. C'est dans l'espérance, en vue de l'espérance, que nous sommes sauvés. Et si on voyait ce qu'on espère, alors ce ne serait plus de l'espérance. C'est logique. Paul est un. Vous pouvez essayer de le prendre sa logique en défaut, vous ne la prendrez jamais en défaut. C'est un des plus grands intellects qui ait jamais vécu. Ceux qui disent que la foi chrétienne, c'est pour les ignorants, ceux qui ont besoin de béquilles, ils n'ont jamais essayé de déguiser leur intellect avec celui de Paul. Dieu l'a choisi pour être un instrument pour apporter sa parole aux païens. Si seulement nous pouvions répercuter cette parole de façon vivante et réelle, les arguments de Paul sont indéboulonnables. Il dit, vous espérez quelque chose, vous ne l'avez pas vu, c'est normal, parce que sinon ce ne serait plus d'espérance, ce serait de la possession ou de la vue, ce ne serait plus de la foi. La nature soupire, je soupire, vous soupirez. Est-ce que vous soupirez? Il y en a qui soupirent? Il y en a qui ont... Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais soupiré? Cette semaine, j'ai une semaine où on se dit, j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour la grâce de Dieu. Ces semaines sont difficiles à vivre parce qu'elles nous ramènent à notre réalité, elles m'amènent à ma réalité de pécheur. Mais quelque part, ces semaines, elles sont mieux, et c'est un auteur qui en parlait dans un très bon livre qui s'appelle La gloire de Dieu, vivre sous la gloire de Dieu. C'est Elisabeth, tu avais ce livre de Jeffrey Ridge. Voilà. Très bon livre, on va essayer, quand on va commencer les livres, on va avoir quelques bons livres qu'on va vous recommander, et ça c'est un livre excellent, qui dit qu'en fait, il y a des moments où on fait assez bien, on a eu notre culte personnel tous les jours de la semaine, on a passé quelques coups de fil parce que le Seigneur nous disait, tiens, encourage telle sœur, tel frère, on est allé rendre visite, on s'est conduit comme un bon Calvin, pour ceux qui connaissent la bande dessinée de Calvin et Hobbes, où il y a le vrai Calvin et puis le bon Calvin qui fait ses devoirs à l'heure, qui se couche, qui se lave les dents, etc. Ces semaines-là, où on a des bonnes semaines, elles sont dangereuses parce que quelque part, elles nous font commencer à penser que peut-être on a moins besoin de la grâce de Dieu. Qu'après tout, j'étais pas mal cette semaine. Et donc, quand on soupire et qu'on dit « Seigneur, merci pour ta grâce, j'ai encore besoin de ta grâce », nous sommes là où il veut que nous soyons, dépendants de lui, non pas sur notre force, sur notre capacité à vivre dans notre énergie, la vie de chrétien. Il y a tous ces soupirs, sur le pont des soupirs, et puis il y a un soupir étonnant, c'est que l'Esprit Saint, lui aussi, il soupire. Est-ce que vous saviez que l'Esprit soupirait ? Il intercède, il est dit, verset 26, par des soupirs inexprimables. Nous avons des tribulations, nous avons de la souffrance qui va produire un poids de gloire qui sera sans commune mesure avec ces souffrances. Ces souffrances, elles ne sont que pour un temps très court, comparé à l'éternité. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls, il envoie l'Esprit au secours de notre faiblesse. Et cette faiblesse, c'est vraiment l'absence de force. C'est quelque chose que l'homme a du mal à admettre, c'est qu'en fait, sans Dieu, je ne peux rien faire. Le mot, c'est absence de toute force. On parle en français, des fois on dit que quelqu'un est asthénique, c'est le mot. Ça veut dire pas de force, aucune, complètement lavé, délavé de toute énergie. C'est notre condition spirituelle. Sans Dieu, sans l'Esprit Saint qui vient nous donner de la force, c'est pas brillant. C'est à peine si on peut prendre notre pouls, tellement on est faible. Et ça se manifeste dans le fait que quand nous prions, souvent nous ne savons pas comment prier. Souvent nous pensons que Dieu devrait répondre à tous nos moindres désirs. Pendant longtemps nous avons prié pour un local. Pour ceux qui s'en souviennent, on a vu des choses vraiment piteuses. Et à l'époque, ça nous paraissait comme des choses merveilleuses. On priait, on envoyait des lettres sur Internet pour demander à tous nos amis de prier. Et puis, ça ne se passait pas. Au dernier moment, le propriétaire ne voulait pas de nous. Il voulait un commerce plus traditionnel, entre guillemets. On avait un local à côté de l'hôtel où on se réunissait. Un ancien magasin de meubles, on avait pensé que ce serait formidable. C'était le même quartier. En fait, c'est devenu le royaume du sommeil ou l'empire du sommeil. Donc, c'était pas un bon lieu pour le réveil. Et en fait, ça aurait été très inconfortable. Les piliers étaient quatre fois plus gros que cela. C'était qu'un alignement de piliers. On avait essayé de se dire comment est-ce qu'on pourrait... Et ainsi de suite. Et on priait. Et on disait, mais Seigneur, pourquoi tu réponds pas ? Et le Seigneur disait, Jésus disait à son père... Attends, l'ordonne pas, je suis en train de libérer le local de Magnan. Je vous ai déjà parlé de notre pasteur Chuck Smith, qui raconte qu'il avait retrouvé la jeune femme avec qui il souhaitait tellement se marier quand il était jeune, lors d'une réunion, 40 ans plus tard, et il avait remercié le Seigneur de ne pas avoir exaucé ses prières. Souvent, nous ne savons pas comment prier. On a prié pour du travail, pour certains qui ont trouvé du travail à Toulouse, mais en fait, est-ce qu'on veut prier pour qu'ils soient plus proches ? Est-ce que le Seigneur n'a pas quelque chose pour eux ? On peut prier selon nos préférences, selon la façon dont on comprend les choses, mais franchement, on ne sait pas. Et quand on fait ça, il est dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables par des mots. Peut-être que vous avez été auprès de gens, Nancy fait ça souvent, moi je crois que je le fais aussi, des fois quand quelqu'un prie, on fait On veut communiquer notre tristesse ou notre lourdeur, notre chagrin, notre incapacité, notre faiblesse devant des situations qui nous font de la peine, qui nous marquent, qui font appel à notre impatience. Et la prochaine fois, vous pouvez simplement gémir comme ça. Seigneur, je ne sais pas pourquoi il faut que je prie pour David, mais... L'Esprit va traduire ça. Ça veut peut-être dire qu'il va le ramener à Nice l'an prochain ou qu'il va l'emmener à... Je ne sais pas ce qui est le mieux pour lui. Quel est le plan du Seigneur? Mais le Seigneur le sait. Une autre façon de voir, c'est de dire aussi que ça peut être un appel au parler en langue. Un langage qu'on ne comprendrait pas nous-mêmes. C'est une interprétation qui a ses mérites. Mais là, ça veut dire que ce n'est pas exprimable en mots. Donc ce serait sans doute pas le parler en langue traditionnelle. Mais celui qui sonde les cœurs, on a cette chanson de Exo qu'on chante de temps en temps. Je connais celui qui sonde les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Nous, on ne peut pas les sonder, on ne sait pas ce qui se passe. Mais lui, il sait quelle est l'intention de l'esprit. La prière, ce n'est pas d'ordonner notre volonté à Dieu, c'est de recevoir sa volonté. C'est d'être en communion avec lui. On peut lui dire, Seigneur, il me semble que ce serait bien si je pouvais épouser telle personne. Mais remettons-en, nous, à sa sagesse et à son plan et à son calendrier, à son timing en anglais. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit soupire. Et tous ces soupirs, c'est en attendant la gloire à venir. Il y a un auteur anglais, C.S. Lewis, qui était un professeur de littérature de la Renaissance et qui est devenu un des plus grands apologistes de la foi chrétienne, c'est-à-dire de ceux qui expriment par le raisonnement pourquoi la foi chrétienne est tellement logique ou près de la logique. Il y a toujours un pas de foi, mais il expliquait que nous devons briller comme le soleil. Il avait écrit un livre qui s'appelle Le poids de gloire, The Weight of Glory. La gloire, c'est quelque chose de lourd dans le bon sens, de réel, de plein. Nous devons briller comme le... Nous sommes appelés à briller comme le soleil. On nous a déjà donné l'étoile du matin. Et je crois commencer à comprendre ce que ça veut dire. D'une certaine façon, bien sûr, Dieu nous a déjà donné l'étoile du matin. L'étoile du matin physique, on peut la voir le matin quand on se lève de bonne heure. Et il y a la beauté de l'aube et de cette étoile qui brille. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Mais en fait, nous voulons beaucoup, beaucoup plus. Quelque chose dont les livres sur l'esthétique ne parlent pas. Mais les poètes et les mythologies sont bien au courant de ces désirs. On ne veut pas seulement voir la beauté, bien que Dieu sache que c'est déjà une grande bénédiction. Nous voulons quelque chose d'autre que nous n'arrivons pas à mettre en termes, en mots. Nous voulons être unis à la beauté que nous voyons. Nous voulons entrer dans cette beauté. Nous voulons la recevoir. Ils nous disent que la beauté naît d'un un son de murmure va se transposer sur nos visages. Mais cela n'est pas le cas, du moins pas encore. Il termine en disant, la porte à laquelle nous frappons, nous avons frappé toute notre vie, s'ouvrira enfin. Est-ce que vous avez remarqué que devant même un paysage de beauté, il y a une insatisfaction? On voit la beauté, il faut la faire partager à quelqu'un d'autre. Il y a aussi le désir d'aller plus loin. Et c'est cette promesse de gloire à venir que l'apôtre nous révèle ici. C'est que ces soupirs que nous avons en nous, ils vont aboutir. Dieu va venir essuyer toute larme. Il va enfin ouvrir la porte que nous tous, même si nous ne sommes pas croyants, nous frappons à cette porte. Ça, c'est la beauté de la gloire de Dieu. Nous allons prendre la Sainte Communion pour nous rappeler comment cette gloire, cette promesse est possible. Je vais demander à David et à Paul peut-être de venir distribuer les